VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du mercredi 19 octobre 2016. Au sommaire ce soir...
République démocratique du Congo, l'opposition a appelé à une journée ville morte pour exiger le départ du président Joseph Kabila à la fin de son mandat.
Procès Jean-Pierre Bemba à La Haye, la Cour pénale internationale déclare l'ancien vice-président congolais coupable de subornation de témoins.
Nous ferons également le point sur la course à la Maison-Blanche avec l'ultime débat ce soir entre Hillary Clinton et Donald Trump.
L'économie et les sports, juste après le journal.
L'appel de l'opposition à une journée ville morte pour exiger le départ du président Joseph Kabila en décembre a bien été suivi ce mercredi à Kinshasa, mais ignoré dans certaines grandes villes de la RDC. Les détails avec Nani Talani.
Le mot d'ordre a été très largement suivi à Kinshasa. Mégapole normalement grouillante et bruyante, Kinshasa est apparu morne aujourd'hui. Les transports en commun ont roulé à vide, la quasi-totalité des boutiques sont restées fermées, la police et l'armée ont été déployées, mais la situation a été globalement calme. La grève générale a aussi été largement observée à Mbujimayi, bastion d'opposition. En revanche, elle a été ignorée à Kisangani, à Bukavu, fief de Vital Kamerhe, pressenti comme chef du prochain gouvernement, tout comme à Lubumbashi, deuxième ville du pays. À Goma, la circulation était normale, mais la plupart des boutiques avaient baissé le rideau. À Kananga, l'activité a tourné au ralenti avant de revenir à la normale. À Matadi, le port a fonctionné normalement, tandis qu'à Mbandaka, les gens sont allés travailler majoritairement vêtus de jaune, comme pour rappeler le carton jaune que l'opposition a tendu au président Joseph Kabila.
La Cour pénale internationale a déclaré l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba et ses quatre co-accusés coupables de subornation de témoins dans son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Nathalie Barche.
Jean-Pierre Bemba, ses avocats Emeki Lolo et Jean-Jacques Mangenga, ainsi que Fidèle Babala, un député du MLC, sont déclarés coupables d'avoir fabriqué ou présenté à la Cour pénale internationale des faux documents afin d'obtenir l'acquittement de Bemba. Un témoin de la défense, Narcisse Arido, est également visé par le verdict. L'ancien homme d'affaires a été condamné en juin à 18 ans de prison pour des meurtres et viols commis par sa milice en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. Il avait interjeté appel de sa condamnation fin septembre, dénonçant des vices de forme, évoquant notamment l'arrestation de son avocat. Il s'agit du premier procès pour subornation de témoins de l'histoire de la Cour pénale internationale.
Une motion de censure a été déposée contre le gouvernement tchadien. Les députés s'opposent ainsi aux mesures prises par le gouvernement pour gérer la crise sociale et économique. Ils estiment qu'une telle politique pourrait par ailleurs remettre en cause la paix et la stabilité du pays. À noter que ces mesures prévoient notamment de réduire les indemnités des députés de 50%. Le gel des primes et indemnités de recherche des enseignants-chercheurs est également au programme, ainsi que la suppression des bourses d'études.
La France restera engagée au Mali tant que la menace djihadiste continuera de peser sur le destin de ce pays. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre français devant les députés. Le chemin de la stabilité du pays est encore long. La sécurisation du Nord est lente à intervenir. Le processus de réconciliation nationale tarde à se concrétiser. Et les groupes terroristes continuent de déstabiliser la région du Sahel, a expliqué Manuel Valls. Nous n'avons pas le droit d'abandonner nos frères africains au moment où précisément ils ont le plus besoin de nous pour consolider les équilibres encore fragiles, a ajouté le Premier ministre français.
Attaque de Boko Haram hier soir dans un village du nord-est du Nigeria. Le groupe djihadiste a pillé et incendié des maisons. Des soldats n'ont pas pu repousser l'attaque. Eric Manirakiza.
Selon des témoins, les combattants de Boko Haram ont pris le dessus sur les soldats avant de leur dérober un véhicule équipé d'une mitrailleuse. Les djihadistes ont utilisé des armes lourdes. Ils ont par la suite pillé des maisons et des commerces, emportant des denrées alimentaires et du bétail. Avant le repli, ils ont mis le feu à tout le village. La localité ciblée est située à une dizaine de kilomètres de la ville de Chibok, dans l'état du Borno. Plus de 200 lycéennes y avaient été enlevées en avril 2014 par Boko Haram. Il y a deux jours, les mêmes assaillants avaient pillé et rasé le village voisin d'Okalali. Depuis 2009, plus de 20 000 personnes ont été tuées et 2,6 millions déplacées. En 2015, l'armée nigériane a lancé une contre-offensive et a reconquis de vastes territoires contrôlés par les islamistes, mais de larges zones de l'État du Borno reste inaccessible.
Et c'est dans ce contexte que le président nigérian Muhammadu Buhari a reçu les 21 lycéennes de Chibok, libérées la semaine dernière par Boko Haram, et promis de tout faire pour que soient relâchées leurs camarades encore prisonnières du groupe djihadiste.
Pas de relax pour Ahmed Abba, correspondant de RFI au Cameroun. La demande a été rejetée par le tribunal militaire de Yaoundé. Ahmed Abba est détenu depuis plus d'un an pour complicité d'actes de terrorisme en lien avec les djihadistes nigérians de Boko Haram et non-dénonciation des actes de terrorisme. Monsieur Abba, qui a toujours clamé son innocence, risque la peine de mort.
Au Sénégal, une peine de 6 mois de prison avec sursis a été requise à Dakar contre un marabout sénégalais. Il est poursuivi pour avoir critiqué les puissantes confréries musulmanes du pays en l'absence du prévenu qui a peur pour sa vie selon son entourage. La présidente du tribunal a mis l'affaire en délibéré au 26 octobre.
Tournée africaine du roi du Maroc, au Rwanda, Mohamed VI a rencontré le président Paul Kagame avec lequel il a signé 19 accords bilatéraux, notamment dans le secteur économique. Il tente de promouvoir la réintégration de son pays dans l'Union africaine que le Maroc a quitté il y a plus de 30 ans.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, au Yémen, une nouvelle trêve doit entrer en vigueur ce soir à minuit. Ce conflit a fait près de 7000 morts en 19 mois. Le point avec John Lyndon.
C'est la 6e tentative de cessation des combats annoncée par l'ONU. Une trêve de 72 heures renouvelable doit démarrer ce soir à minuit heure locale et 21 heures temps universel. Cependant, ce cessez-le-feu a été précédé de violents combats dans le nord, près de la frontière saoudienne et autour de Sanaa, la capitale. Avec l'implication des États-Unis et de la Grande-Bretagne, les belligérants semblent cette fois plus disposés à des compromis. Les civils payent le prix fort dans ce conflit. Ils sont souvent victimes de bombardements, comme celui sur une cérémonie funéraire à Sanaa qui a fait 140 morts et 525 blessés le 8 octobre. Au moins 3 millions de civils et 1,5 million d'enfants souffrent de malnutrition et une épidémie de choléra est apparue début octobre.
L'organisation caritative internationale Save the Children affirme que des milliers de personnes ont fui la région de Mossoul pour échapper à l'offensive lancée par les forces irakiennes et kurdes pour déloger le groupe État islamique. Environ 5000 personnes sont arrivées au cours des 10 derniers jours dans un camp situé à la frontière syrienne. Ce camp risque d'être submergé par le flot de réfugiés venant de Mossoul. Les combats se concentrent jusqu'à présent autour de la deuxième ville d'Irak et l'aviation de la coalition tente d'éviter les quartiers résidentiels afin de réduire le nombre de victimes civiles.
Et Vladimir Poutine a entamé mercredi soir à Berlin son premier sommet depuis un an sur la crise en Ukraine avec les dirigeants allemands, français et ukrainiens. Une rencontre en terrain miné, également marquée par le différend sur la Syrie. Et cette réunion à quatre sera suivie dans la soirée d'une rencontre tripartite sur l'autre grand sujet de tension russo-occidentale, la guerre en Syrie, avec les bombardements de Moscou en soutien au régime. En particulier sur Alep.
En Afghanistan, l'armée américaine a confirmé la mort d'un de ses soldats ainsi que d'un civil américain ce mercredi dans une fusillade près d'une base de la coalition à Kaboul. Un autre militaire et deux civils américains ont subi des blessures et se trouvent dans un état stable selon une annonce officielle.
Un fourgon de police a percuté à plusieurs reprises les manifestants rassemblés aujourd'hui devant l'ambassade des États-Unis à Manille, faisant plusieurs blessés. Environ 1000 personnes se trouvaient devant la mission diplomatique pour appeler à la fin de la présence militaire des États-Unis aux Philippines. La police a tiré des gaz lacrymogènes et utilisé des canons à eau pour disperser la foule. Les corps de 5 migrants ont été retrouvés aujourd'hui en Méditerranée centrale à l'occasion de 5 opérations de secours qui ont permis le sauvetage de 300 personnes. C'est ce qu'ont indiqué les gardes-côtes italiens. Depuis le début de l'année, rappelle l'AFP, l'Italie a vu débarquer près de 145 000 migrants sur ses côtes. Et selon l'ONU, au moins 3626 sont morts ou disparus en mer.
Malik Obama, demi-frère du président américain, est le seul membre membres de sa famille à soutenir Donald Trump face à Hillary Clinton. Il est question que Malik vienne ce soir au débat comme invité de Donald Trump. La réaction de Saïd Obama, oncle paternel de Barack Obama, joint par la Voix de l'Amérique à Kisumu, au Kenya.
Oui, je crois qu'il a permis qu'on l'utilise à des fins politiques. Quelqu'un d'aussi éduqué devrait comprendre que Barack Obama est son petit frère et devrait à tout moment être à ses côtés. Et je ne vois pas pourquoi il a accepté de se laisser instrumentaliser de la sorte pour combattre son demi-frère. Le président va bientôt quitter la Maison-Blanche et les gens s'attendent à beaucoup de choses, mais il n'est pas un président africain ni un président du tiers-monde. Il est le président des États-Unis. Vous savez, en Afrique, il y a une très petite marge entre ce qui appartient au président et ce qui est du domaine public. Si quelqu'un regarde Barack Obama dans cette optique, que tout l'argent du peuple américain doit leur être distribué, ça ne marche pas comme ça. Je pense qu'il est injuste qu'il permette qu'on puisse l'utiliser de cette façon. Ce n'est pas bon et c'est mauvais pour la communauté.
Nous reviendrons sur le débat de ce soir dans la seconde partie de cette édition. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
La construction du barrage hydroélectrique de Singrobo à Ouati en Côte d'Ivoire devrait démarrer l'année prochaine, selon Alain Eti Ecolan, PDG d'Ivoire Hydroénergie. L'énergie générée approvisionnera le réseau électrique via un contrat d'achat avec la compagnie ivoirienne d'électricité. La Banque des BRICS va accorder des prêts d'un montant total de 2,5 milliards de dollars en 2017, a annoncé le président de la NDB, Kundapur Vamankamat, lors d'un sommet à Gao en Inde. Il a par ailleurs estimé qu'il y a de la place pour la NDB et la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures aux côtés d'institutions comme la Banque mondiale. Une centrale solaire de 20 MW à Bakole, au Sénégal, sera inaugurée samedi par le président Macky Sall. Cette première unité, qui permettra d'alimenter 180 000 foyers, sera la plus grande d'Afrique de l'Ouest. 6 autres seront construites d'ici 2018, de même que 48 centrales éoliennes d'ici 2020.
Et pour l'actualité sportive ce soir, nous avons en studio Nanit Talani. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Gabi.
Alors, on commence par la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. Le tableau des différents groupes sera connu ce soir.
Oui, on attend impatiemment le tirage du sort qui aura lieu au stade de l'Amitié dans la banlieue de Libreville à 19h30, temps universel. Mais déjà, on sait que dans le premier chapeau, il y a le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Ghana et l'Algérie. Le deuxième chapeau est composé de la Tunisie, du Mali, du Burkina Faso et de la RDC. Le troisième chapeau comprend le Cameroun, le Sénégal, le Maroc et l'Égypte. Et enfin, le quatrième chapeau est composé du Togo, de l'Ouganda, du Zimbabwe et de la Guinée-Bissau.
Parlons de football européen, Nanit. Résultat de la troisième journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions d'hier soir.
Dans le groupe E, aucune équipe n'a réussi à s'imposer hier. Match nul partout, 0-0 entre Bayern Leverkusen et Tottenham et 1-1 entre CSKA Moscou et Monaco, qui gardent toujours la tête du groupe avec 5 points. Dans le groupe F, le Real Madrid a largement battu Legia Varsovie par 5-1 et Dortmund a battu le Sporting par 2-1. Donc le Real Madrid a donc réussi à se démarquer de Dortmund, même si les deux équipes sont à égalité de points. Et dans le groupe G, Leicester City, leader avec 6 points du groupe, s'est imposé face au FC Copenhague avec 1-0, tandis que FC Porto l'a emporté sur Bridge par 2-1. Enfin, dans le groupe H, Dynamo Zagreb s'est incliné face au FC Séville avec 0-1 et Lyon a aussi subi une défaite face à la Juventus qui a gagné par 1-0.
Et que se passe-t-il dans les autres groupes?
Mais ce soir, en fait, c'est la suite de la troisième journée de la phase des groupes avec les autres groupes. D'abord, le groupe A, Arsenal, sera aux prises avec Ludogorets, alors que Paris Saint-Germain affronte FC Bâle. Et dans le groupe B, Naples va en découdre avec Besiktas, tandis que Dynamo Kiev sera aux prises avec Benfica. Dans le groupe C, choc entre Celtic et Mönchengladbach, tandis que FC Barcelone va jouer contre Manchester City. Et enfin, le groupe D verra à l'œuvre FC Rostov contre Atlético Madrid et Bayern Munich contre Eindhoven.
Merci Nanit Talani pour les sports. Heureux d'être en votre compagnie, Morgane Guériec et Gaby Dorsil. C'est Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique. Place à nos dossiers du jour.
Première escale Kinshasa, journée particulière ce 19 octobre 2016 en RDC. Le rassemblement de l'opposition aux plateformes politiques que dirige Étienne Tshisekedi avait appelé les Congolais à rester chez eux en signe de carton jaune au président Kabila, dont le deuxième et dernier mandat, selon la Constitution, s'achève le 19 décembre prochain. Les activités ont tourné au ralenti dans plusieurs grandes villes du pays. Reportage de Eric Ambago de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La ville a tourné au ralenti. Les transports en commun sont restés pendant des heures sans passagers. Les administrations, les écoles étaient presque vides. Motif, l'appel à la journée ville morte lancé par le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Grève générale, symbole de carton jaune ou d'avertissement au président Kabila, dont le mandat s'achève le 19 décembre. Les éléments des forces de sécurité étaient visibles dans les points chauds de la capitale congolaise pour prévenir d'éventuels dérapages. Dérapages, il y a eu dans les communes périphériques de Kibaseke et Djili. Les militants du rassemblement ont brûlé des pneus pour barricader les routes, caillasser des véhicules avant d'être dispersés par la police. Le rassemblement parle d'une manifestation réussie. Joseph Olega Koy est membre du conseil des sages du rassemblement.
Dans la ville de Kinshasa, il n'y a jamais eu une telle paralysie. Elle est totale.
À la majorité présidentielle, on a tenté d'expliquer l'ambiance vécue à Kinshasa. André-Alain Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle.
Si la population a mis du retard à sortir, c'est pour éviter des cas de violence et de véhémence dont sont coutumières les militants du rassemblement.
À Goma, au Nord Kivu, les opposants munis de cartons jaunes se sont dirigés vers le gouvernorat de la province. Sur place, ils ont remis symboliquement le carton jaune aux représentants du gouverneur, afin de rappeler, disent-ils au président de la République, qu'il ne lui reste que 60 jours au sommet de l'État. Kakule Sassita, leader du rassemblement au Nord Kivu.
Et donc nous pensons que le 19 décembre, il se sera déjà prononcé pour permettre que la paix revienne dans le pays. Sinon, le chaos qui pourra survenir ne sera imputé qu'à lui et il en sera responsable.
À la majorité présidentielle dans la région, on qualifie cette manifestation de pure distraction. Jimmy Diallé, leader de la MP au Nord Kivu.
Nous pensons que c'est aussi une distraction, sans le savoir. Qu'il vienne, on ne doit pas réclamer un autre dialogue alors qu'il y a eu un dialogue en même temps.
La ville de Beni, toujours au Nord Kivu, et Butembo ont connu la même ambiance. Mais à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, les populations ont vaqué librement à leurs occupations. Mais mardi soir, des heurts avaient opposé dans la ville les forces de sécurité aux militants de l'UDPS d'Étienne Tshisekedi. Kinshasa, Eric Ambago de Top Congo pour VOA Afrique.
Dans moins d'un mois, l'Amérique élit un nouveau président. Quelle vision du monde pour les deux principaux candidats, la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump? Comment la grande communauté d'immigrants des États-Unis perçoit-elle ces deux candidats? Ne manquez pas le troisième et dernier débat présidentiel, immédiatement suivi d'une exclusivité VOA. Le monde regarde. Perspective des immigrants aux États-Unis. En direct sur voafrique.com, ce jeudi, à partir de 1h TU, Le Monde Regarde, voafrique.com.
La liste que la CMA a fournie dans le cadre de la mise en place des autorités intérimaires au Mali sont des listes consensuelles. Les mouvements et associations qui s'agitent ne sont pas des membres de la CMA. C'est ce qu'a laissé entendre le porte-parole du groupe Al-Mouag Mohamed. Il a animé une conférence de presse hier dans un hôtel de Bamako. Kassim Traoré y était pour VOA Afrique.
Cette rencontre de la coordination des mouvements de l'Azawad était avant tout une rencontre de clarification. Selon les conférenciers, les mouvements fondateurs de la CMA sont connus et ne se sont jamais révoltés contre leur fêtière. Al-Mouag Mohamed, porte-parole de la CMA.
En tout cas, tous ces problèmes se sont créés à partir de Bamako ici. Ce qui est sûr, la CMA, elle reste intacte, même si, à notre grande surprise, on voit des titres dans la presse malienne qui parlent d'implosion de la CMA, parce que la charte de la CMA, elle est là. Elle a été signée par 3 mouvements, pas un seul mouvement de plus, le MNLA, le HCIA et le MAA. Et ces 3 mouvements, membres et fondateurs de la CMA, restent intacts au sein de la CMA.
Et pourtant, en début de semaine, 3 mouvements membres de la CMA ont contesté les listes présentées par les ex-rebelles au niveau du ministère de l'administration territoriale, car elles ne répondaient pas aux critères, d'après eux, des choix en fonction des localités.
On pointe du doigt ceux des gens qu'on a voulu aider, comme la CMFPRD et la CPA, en les acceptant sous la couverture de la CMA au niveau du comité de suivi de l'accord. J'ai tout de suite distribué le document qui a été signé à cet effet. Il stipule qu'ils acceptent de siéger au niveau de la CMA au comité de suivi, mais sans exiger aucun quota. Et pourtant, c'est ce qui se passe maintenant, tout le contraire qui se passe. Ils exigent des quotas, ils sont sur toutes les presses du Mali pour dire qu'ils quittent la CMA alors qu'ils n'ont jamais fait partie de la CMA.
Le porte-parole de la CMA salue le gouvernement malien qui est en train de tout mettre en œuvre afin que l'accord puisse être une réalité. Al-Mouag Mohamed insiste sur le fait que la mise en œuvre de l'accord est l'œuvre de 3 entités majeures qui sont le gouvernement malien, la CMA et la plateforme.
La CMA a fourni ses listes et le ministère a pris compte ses listes. Il n'a pas à prendre en compte les listes d'une autre personne que la CMA à la place de la CMA. Donc je n'ai pas l'habitude de défendre les ministres, mais cette fois-ci, je pense que c'est une sortie hasardeuse de nos amis de ces 2 mouvements.
Cette dissension au niveau de la CMA est née de la mise en place des autorités intérimaires. Des autorités qui aujourd'hui sont contestées dans la région de Gao. Les forces vives de cette région s'organisent pour barrer la route à l'installation de ces autorités au niveau de la cité des Askia. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Et nous partons maintenant au Niger, où s'est tenue une rencontre sur la Libye. À la veille du 5e anniversaire de la mort de Muammar Kadhafi, la situation reste préoccupante sur le terrain. Les pays voisins de la Libye se sont donc réunis à Niamey dans l'espoir de contribuer à la stabilisation du pays. De Niamey, la correspondance d'Abdulrazak Idrissa.
Au cours de cette rencontre, les autorités nigériennes, préoccupées, concernées et menacées, disent-elles, par la situation en Libye, ont proposé aux autres pays voisins et les autres acteurs de la crise libyenne quelques pistes de solutions. Madame Elbak Zainabou Tari est la ministre nigérienne déléguée aux affaires étrangères.
Réaffirmer la primauté du rôle des Libyens et des pays voisins de la Libye dans le règlement de la crise libyenne. Soutenir le rôle central que l'Union africaine peut et doit jouer dans cette situation. Soutenir la mise en place d'une troïka, Nations Unies, Union africaine, Ligue des États arabes pour le règlement de la crise libyenne. Soutenir la mise en place d'un nouveau gouvernement d'union nationale approuvé par le gouvernement. Ce gouvernement doit avoir autorité sur l'ensemble du territoire libyen.
Parmi ces propositions du Niger, une a particulièrement intéressé le ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat, présent également à la rencontre.
Nous avons constaté tous que le processus piétine. Je crois que cette situation qui s'enlise est préjudiciable à tout le monde. Et c'est dans ce sens que, personnellement, je salue la proposition faite par le Niger de faire en sorte qu'il y ait une forme de troïka, Nations Unies, Union africaine et Ligue des États arabes, pour essayer d'accélérer le processus en Libye parce qu'ils s'enlisent et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave.
La délégation libyenne à cette rencontre a été conduite par le vice-président du Conseil présidentiel de l'État libyen, aucun délégué cependant du général Khalifa Haftar. S'il devait être présent, c'est aux Libyens de le décider, estime Martin Kobler, le chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye.
Je crois que le général Haftar peut avoir un rôle, mais c'est aux Libyens de le décider. C'est pourquoi j'encourage, non, je demande aussi aux Libyens alors de se réunir d'ensemble autour d'une table ronde et de discuter les structures d'une armée libyenne unifiée et la structure, la chaîne de commandement et qui a quel rôle.
Le groupe des pays voisins de la Libye est un de ses cadres formels créés depuis la survenue de la crise en 2011. Les discussions qui s'y déroulent se font conformément à l'esprit et à la lettre de la résolution 2259 du Conseil de sécurité des Nations Unies adopté en 2015. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Présidentielle américaine 2016, Hillary Clinton et Donald Trump débattront ce soir une dernière fois à 20 jours du scrutin. Hillary Clinton est toujours en tête des sondages. Jacques Aristide.
Comme lors de leurs deux premiers duels, Hillary Clinton s'est préparée pendant plusieurs jours à huis clos dans un hôtel près de son domicile de Chappaqua en banlieue de New York. Les stratèges de la candidate démocrate estiment que ces débats ont eu jusqu'à présent un impact déterminant dans la campagne. Donald Trump, lui, était encore en meeting lundi et mardi, ne consacrant que quelques heures par jour à la préparation du duel. Le milliardaire républicain a plus que jamais besoin d'un coup d'éclat, tant il a pris du retard dans les sondages. Porté par une popularité croissante auprès des femmes et des minorités, Hillary Clinton recueille en moyenne quelque 46% des intentions de vote contre 39% pour Donald Trump. Pour le politologue John Hudak de la Brookings Institution, Madame Clinton doit éviter d'attaquer son rival et plutôt faire ce qu'elle a fait lors des deux premiers débats, c'est-à-dire rester calme, éluder les attaques et laisser Donald Trump s'autodétruire.
Mais Jacques, M. Trump tirera sans doute les leçons des premiers débats pour mieux attaquer son adversaire, notamment sur la Syrie et la Libye qui feront partie du programme.
En effet, l'attaque contre le personnel diplomatique américain de Benghazi en 2012 reste un sujet brûlant pour les sympathisants républicains qui jugent Hillary Clinton, alors secrétaire d'État, est partiellement responsable de la mort de 4 Américains, dont l'ambassadeur Christopher Steven. La mère d'un informaticien tué lors de l'assaut, Patricia Smith, très critique d'Hillary Clinton, a été invitée par Donald Trump à assister au débat. Après la publication par Wikileaks de messages piratés, des questions sont attendues sur la position exacte de la démocrate sur le libre-échange et Wall Street. Le scrutin a déjà démarré de façon anticipée dans plusieurs États, avec près de 2 millions de bulletins envoyés ou déposés. Mais cet ultime débat demeure crucial. Modéré par le journaliste de Fox News, Chris Wallace, il aura lieu en début de soirée à l'Université du Nevada à Las Vegas, où les deux candidats sont arrivés hier soir.
Merci Jacques.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry, 92.3 FM.
Voilà, c'est la fin de cette édition.
Oui, donc c'était Morgane Diriec et Chérubin Garbi d'Orsil à la présentation et Michel Joseph à la production.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. On continue la conversation sur Facebook avec nos 2 millions de fans. Oui, Morgane, on a atteint la barre des 2 millions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.